Alors, Anne, j'ai pensé qu'on pouvait partir d'une citation de Victor Hugo qu'André Dubuchet aimait beaucoup. La terre est sous les mots comme un champ sous les mouches. Et de cette homonymie qu'il a souvent même remarqué lui-même entre le mot terre, TE2RE, et puis terre, TAIRE, et ce besoin d'une terre sous le pas. Mais aussi ce besoin d'appuyer la parole sur quelque chose, et comme si la parole avait besoin pour se soutenir de ce qui la contrarie, c'est-à-dire le silence, enfin, qui ne la contrarie pas, mais qui lui aide à trouver sa résonance.
La terre est sous les mouches.
Sous les mots.
Non, mais on peut le retourner en
Ah.
sous les mouches. Et la terre est sous les mouches.
La terre est sous les mots comme un champ sous les mouches. La terre est sous les mouches comme un
Comme un
champ
champ
sous
sous
les
les
mots.
mots. Voilà.
C'est
C'est là où.
HANT alors.
Voilà. Et terre est terre toujours, parce que la terre, c'est le silence, donc c'est la même orthographe que TAIRE. Et. En fait, la terre, c'est ce qui nous donne notre page de silence sous l'œil du ciel. Ces hommes qui marchent, dont on dit qu'ils n'arrêtaient pas de déambuler, de marcher, de déchiffrer la page de la terre, comme si elle était écrite par des mots, effectivement. Et leurs paroles relevaient toujours d'un regard au sol, ou d'un regard du reflet du ciel au sol, dans une flaque. Il fallait vraiment les laisser seuls cheminer, parce que si j'ai pu participer à quelques promenades, au fond, me sentant très indiscrète de cette intimité, de ce secret qu'ils échangeaient, et de cette vision qu'ils avaient en commun, ponctuée de grands silences, de grandes marches, et surtout, il fallait se taire à côté, se taire, TAIRE. Voilà. Et
Et
voilà. Bon.
on a en tête ce passage de Dans la chaleur vacante. On a évoqué tout à l'heure ensemble, on s'était dit qu'on pourrait aborder la question du récit. Et dans la chaleur vacante, il y a décrit: Mon récit sera la branche noire qui fait un coude dans le ciel. Et le mot récit apparaît dans le texte, là où justement il n'y a pas de récit, mais simplement le souvenir d'un coude et d'une branche dans un ciel d'hiver. Et on s'était dit qu'on pourrait aborder ce qui, dans le récit justement, ce qu'il y a de rentrer dans la parole du récit tel que la pense André Dubuchet.
Alors, sous l'étale de ce ciel, sous l'étale, sous la grande, le grand étale de cette terre, n'empêche que la marche des deux hommes relevait pour moi toujours d'un coup de pierre reçu ou de quelque chose de très aigu ou d'une incisive qu'il portait en lui, qu'il portait en eux, en fait, chacun. Et là, je dirais bien ce petit texte d'André dans Un coup de pierre, qui s'appelle Un coup de pierre, qu'il a écrit au Maroc, puisqu'il s'agit de rentrer. Il s'agit pour l'un pour l'autre de toujours retourner vers le soleil d'un silence, sans bruit. C'est ce vers quoi il se tourne. Alors, si en retrait de la phrase, il y a une histoire, elle sera rentrée dans la phrase. Mais la phrase dans laquelle l'histoire a disparu, elle-même redevient un nihilia sans objet et sans antécédent, un nihilia jamais attendu, analogue dans le champ de la page à une pierre qui a frappé ou à du vent. Il ne s'agit pas de raconter une histoire, il s'agit de s'immerger dans une matière verbale, pour André Dubuchet. Il a s'y noyé. Cette matière verbale, vous l'avez éprouvée en ouvrant ses malles, où le plus petit texte, le plus succinct, a nécessité, mais des pages et des pages et des ratures, parce que André Dubuchet ne ferme pas sa journée le soir, mais le lendemain matin reprend toute sa journée et les temps d'avant pour les ramener à la minute immédiate. C'est un parcours de va-et-vient du passé au futur. Faire attention que le présent, surtout, reste au présent. On n'emploie pas l'imparfait, c'est interdit. l'imparfait vous tue, puisqu'on est tout le temps dans le présent. Et c'est vrai ce que disait Jean-Pascal, c'est que quand il recevait un livre qui venait d'être édité, il s'enfuyait avec pour le réécrire. Et ensuite se disait, ah, il va falloir le republier. Mais si on le republiait, c'était toujours... Moi, j'ai admiré cette roue de l'œuvre, cette roue qui n'en finit jamais, cette roue qui est à l'impersonnel, comme si l'impersonnel était le plus grand nom qu'on puisse donner aux choses, en fait, et à ce que l'on voit. C'est-à-dire être juste l'intermédiaire qui renvoie l'espace à l'espace en ayant été un homme qui foule un champ. C'est ce qu'ils, je trouvais qu'ensemble, c'est quelque chose de cet ordre qu'ils essayaient de dire, Pierre Talcoat et André Duboucher. Je dois dire que quand on était étranger à cela, on n'est pas étranger, on est autre. Quand on était autre et qu'on les suivait, on ressentait, parce que soi, on ne fait que soi, le petit soi, je parle du petit soi, on ne fait que sortir, parce qu'on sort de soi, parce qu'on veut que la langue nous sorte de quelque part. Il faut sortir de soi. Et moi, étant tellement dirigée vers sortir, quand je les voyais rentrer à mes côtés, ne pas cesser de rentrer, c'était très émouvant. Et il arrivait que je me dise, mais je vais me noyer dans la façon dont ils rentrent, parce que tout ce que j'ai à sortir ne va pas tenir le coup. Ça va s'évanouir. C'est-à-dire qu'il y avait un temps qui ne correspondait pas. Et ça m'intéressait. Une petite personne que j'incarnais à ce moment-là, la plus petite qui soit, auprès de ces hommes. Quand on les regardait, c'est comme si on avait le ciel dans les yeux, comme quand on est aveuglé par les phares. Ils avaient leur silence, mais ce n'était pas un silence pour se poser, c'était une forge de silence, où les éléments, tous les non-dits, étaient broyés ensemble. Ils broyaient les couleurs, mais Duboucher broyait la langue jusqu'à sa précision ultime. Et il n'aurait pas eu de vie assez longue pour trouver le mot le plus ajusté. Et c'est d'ailleurs ce qu'on sent dans la moindre petite phrase même qu'il écrit subrepticement, parce qu'il note tout le temps, cette petite phrase... en même temps, contient tout le chemin qu'il va parcourir. C'est-à-dire que ce n'est pas un brouillon, c'est sur son carnet. Il est très étonné. Quand on a publié ses carnets, qui étaient des petites phrases prises en route, en chemin, il était quand même, n'est-ce pas, Philippe Jacotet lui téléphone et lui dit « Mon cher André, vos carnets sont merveilleux. » Et il me dit « Donc, est-ce que tu crois que Philippe aime mes petites phrases notées en chemin, mais tout ce que j'arrête à la phrase définitive, penses-tu que ça lui serait plus étranger ?» Et cette question le perturbait, parce qu'alors il avait l'impression que s'il était sorti avec son carnet, en train de marcher, de traverser les champs, ça aurait suffi à une œuvre. Et c'est au moment où c'est cela même qu'il... essaye d'exprimer, c'est un départ ça, mais lorsqu'il parvient à cette immersion dans quelque chose que nous ne savons pas, qui préserve un abîme qui est tout de même, mais un abîme qu'il avait en lui, il faut le préserver cet abîme, et c'est lui qu'il faut faire parler, et nous n'aurons pas de mots sortis sans qu'il soit immergé. C'est un petit peu ça.
Mais est-ce que quand on voit un tableau de Talcoat qui a mis des années à se faire, et que dans une exposition par exemple, tout d'un coup on arrive sur un dessin qui a pris quelques minutes et qu'on est surpris par sa fraîcheur et qu'il nous remue d'une autre façon, voilà. Il n'y a pas des expériences qui finalement ne sont pas si antithétiques?
Non, ça, c'est la même. Je dois dire que le dessin de Talcoat, la gravure du hibou, ou bien la tête du chat, j'ai toujours trouvé, alors que les dessins, qui sont sublimissimes, les dessins, les gravures de Talcoat, veillent sur le champ de sa peinture. Du haut de leur arbre, du haut de leur radiateur, le chat est là, Ce qu'il en a fait en gravure, c'est extraordinaire, c'est d'une portée infinie. Il a rentré la figure dans l'abstraction de flèches de lumière. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ça? On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit tout d'un coup les yeux du chat qui sont pris dans ce dessin et qui surveillent la peinture entière de Talcott qui peut être sur un mur avec cet envol au cœur même de la matière qui, l'envol ne sortira pas, mais le chat l'attend au dehors. Et bien ça, c'est ce qu'on vivait dans la grande pièce de Pierrette en bas, quand les chats étaient sur le radiateur, quand on regardait la gravure du chat et qu'on avait une grande toile noire traversée par une matière habitée, parce que on va dire ce noyau en épaisseur, en fait, avait immobilisé tous les oiseaux en l'air. Voilà, par exemple.
Parce qu'avec le hibou, on a la vision nocturne et on a la faculté d'avoir un regard à 360 degrés. Et on retrouve l'obsession d'André Duboucher de ce qui est derrière sa tête. Ce que vous disiez sur cette orbe de l'œuvre me faisait penser aussi à la relation qu'on peut avoir entre le recueil ou le soleil, et puis qui n'est pas tourné vers nous, où il y a ce premier texte qui termine sur l'image du soleil qui se couche derrière les montagnes, à l'heure où la journée de Giacometti ne fait presque que commencer, cette journée qui, puisqu'il travaillait de plus en plus la nuit à la fin de sa vie, il parle de la nuit blanche pour Alberto Giacometti.
Tout à fait.
Et peut-être qu'on pourrait repartir un petit peu de ces années qu'on a évoquées avec Alain Père hier, de ces années d'Aix-en-Provence. Et je me demandais si vous-même, vous aviez des souvenirs de Georges Dutuy, qui a cru que l'art ne devait pas former un monde parallèle, mais j'ai noté ce qu'en dit Rémi Bruce notamment, éclairer l'espace réel pour lui conférer une qualité, une énergie nouvelle, et par là structurer et animer d'un nouvel élan notre rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres. Comment vous évaluez la place de Georges Dutuy, vous, dans ces années de...
Alors là, je vais être très honnête, mais moi, je n'ai pas 250 ans. Alors, je regrette, mais Georges Dutuy, moi, je l'ai connu quand il venait déjeuner trois fois par semaine, rue Goguet, pour rencontrer mon père. Ça faisait des dés. Avait-il 35 ans à cette époque? Alors, vous voyez, moi, j'en avais 7-8, je ne sais pas compter, mais très petite. Et en fait, je voyais ces hommes, mais s'enflammer dans des conversations. Je n'ai jamais rien vu de si gai. Et parlant de l'art byzantin, Stahl, je retiens des petites bribes de phrases qui disaient « Faites attention, mon cher Georges, je suis plus byzantin que latin », ce qui faisait plaisir à Georges. Alors là, il buvait un coup. Et à la fin, il finissait aussi sous les uns que les autres. Et vers 5 heures du matin, comme on habitait tout petit, on n'avait jamais pu s'endormir, tellement il riait, et à la fin finissait totalement ivre. Voilà. Donc, moi, Georges Dutuy, c'est chaleureusement que je l'ai connu. C'est dans une présence fougueuse.
C'était après le feu des cygnes? Parce que André Duboucher avait été secrétaire de Georges Dutuy au moment où il travaillait au feu des cygnes. C'était en 62.
Ah non, c'était avant le feu des cygnes. Voilà, c'est ça. Et je sais que Stahl était allé chez Dutuy. Dutuy lui avait dit, passe-moi une toile. Moi, j'aime accrocher à mon mur une toile. Comme ça, tous ceux que je connais la voient, on en discute. Donc, il y avait Beckett, il y avait tous ceux que vous savez. Et prête-moi donc une grande toile. Il lui avait prêté une grande toile magnifique. C'est jamais abstrait, mais une toile donc de cette époque-là, de 50. Il l'avait accrochée. Et mon père rentrait en disant, disait donc à sa femme, « Dis donc, ça y est, je lui ai apporté ma toile, je ne sais pas ce que ça donnera dans le regard des gens qu'il va croiser. J'ai vu qu'il travaillait avec un jeune homme derrière, il travaille fermement, un jeune homme absolument charmant et muet. » Et Alors le jeune homme, j'ai appris après qu'il s'appelait André Duboucher, et André Duboucher me disait, mais quand j'ai vu cette toile arriver, j'ai dit tui, mais que je trouvais ça mauvais. Ah, tu peux pas savoir. Alors, tu sais pourquoi je... Alors après, il réfléchit, parce que Duboucher, il a rencontré l'œuvre de Stahl en 1956, quand on a fait une rétrospective des toiles non sèches de Nicolas de Stahl au musée d'art moderne, là-haut, au Trocadéro. Et c'est là que Duboucher est allé, tranquille, tout seul. Et oui, il m'a dit, je suis revenu, mais bouleversé, je ne pouvais pas avoir idée de ce qu'était cette œuvre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a aimé de Stahl, qui d'ailleurs, on sentait par l'urgence de toutes ces toiles, mais il lui faisait presque un peu peur, puisque, bon, et donc, voilà ce que je peux dire.
Alain Peyre a évoqué hier la place de Samuel Beckett aussi à cette époque, et puis cette controverse au sujet de Bram Van Velde. Dutuy disant « Aucun des peintres soutenus par moi n'a contesté la validité de nos attaches perpétuelles avec le monde du dehors. » Et ce qui est... on peut peut-être penser aussi à Bram Van Velde, qui est quand même une relation qui a beaucoup compté pour André Duboucher.
Extraordinaire, et... extraordinaire. Puis alors, Bram Van Velde, encore quelqu'un d'extraordinaire.
Mais alors, comment sa lecture, par rapport, comment vous la situez par rapport à celle de Beckett
Par rapport à Bram Van Velde?
Oui. Beckett, qu'il a connu également, puisqu'ils ont fait. Été proches au moment de transition. Je ne sais pas s'il le voyait encore par la suite.
Qui, André?
Oui, si André
voyait Beckett. Non, André n'a pas... Non. Ah non, non. Ah non, non. Parce qu'André me disait, tu sais, Beckett, que j'adorais, plus tard, moi, les temps jouent dans leur lumière. Tu sais, Beckett, c'est pas très bon. Alors, voilà. André aime bien qu'on lui laisse le temps, et il y a... C'est comme la peinture de Stahl, il ne la voit pas d'un coup. Pourquoi ne la voyait-il pas? Il m'a dit après. Parce que Dutuy m'énervait tellement que j'étais prêt à ne plus reconnaître une seule toile qu'il mettait sur son mur. Voilà. Bon, alors, là-dedans, on peut croire qu'André Duboucher dépasse tous ses états d'âme, mais finalement, pas du tout, parce que...
mais il a aimé cette peinture de Bram Van Velde d'emblée, elle a beaucoup compté pour lui.
Ah,
et
oui.
Si on regarde quand Alain Weinstein, par exemple, vient dans la rue des Grands Augustins, il y a 3-4 artistes qui ont compté pour lui, et quand il regarde au mur, il y a Giacometti, il y a Talcoat, il y a de Stahl et il y a Bram Van Velde.
Voilà, de Stahl après. Après, il avait Bram Van Velde.
Enfin, à l'époque de l'émission, il était...
Ah oui, oui, à l'époque de l'émission, tout à fait. Alors, donc, Bram Van Velde, c'est évidemment extraordinaire. C'est une peinture par an. C'est quelqu'un... Alors, lui, plus que tous les peintres, c'est quelqu'un d'un instant précieux, douloureux, improbable, qui a fini en lisant des poèmes, tout seul, dans une chambre... peut-être dans l'immeuble du... Non, pas chez Picasso, mais enfin dans la rue des Grands Augustins, une petite chambre, un poème de Baudelaire ou de Rimbaud. André allait le voir, ils lisaient ensemble et parlaient poésie, parce qu'il allait voir André qui habitait rue des Grands Augustins.
Il habitait à quelques mètres, et quand Bram Van Velde est mort, André Duboucher a dit que la rue était déserte.
Voilà, exactement. Et André aimait beaucoup Bram Van Velde. Cette personne qui, plus que tout, au lieu de demander des arches de temps, sur l'instant, se débrouillait toujours pour le ressentir avec une acuité sans pareille et une acuité qui frôle presque la mort, en fait. C'est ça qui était intéressant chez Bram Van Velde, c'est que cette façon, c'est qu'il y a partout, c'est une approche du plus profond de la vie, mais dont la jauge va toujours jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. C'est parce que c'est la grande, je dirais, c'est la grande tragédie de l'art de ces dernières années. C'est que la mort est présente comme une grande lumière aussi. Donc, Bram Van Velde, je dois dire qu'avec une toile par an, à laquelle il touche très doucement, une touche de temps en temps, ces grandes volutes, ces coulures, c'est une interrogation, c'est une des plus belles interrogations du monde. Jean Pascal, je ne sais pas si j'ai bien bon souvenir, avait un jour exposé dans sa galerie l'étoile ultime des peintres. C'était très impressionnant. C'était à peine soutenable, cette exposition, parce que ce qu'exprimaient ces peintres dans leur dernière toile, il y avait là, c'était la véritable lumière de leur vie, en fait. Allez-y, Thomas.
Ce qui est frappant, puisqu'ici c'est Talcoat qui nous réunit, c'est qu'alors qu'il y avait cette force dans le rapport à Bram van Velde et à Talcoat, André de Boucher est resté pratiquement muet face à Bram van Velde, alors qu'il y a eu ces nombreux textes sur Talcoat. Est-ce que... Il y a le texte de la couleur, et il y a aussi un... Ouais. Mais c'est un texte unique. Et pour le livre des écrits sur l'art qui va paraître, j'ai retrouvé le début d'un texte qu'il a commencé à écrire au moment de la mort de Bram van Velde, qui est extrêmement émouvant, mais qui n'a jamais été publié. Voilà. Mais tout de même, je me demande si c'est pas cette question du rapport au dehors qui fait qu'avec Talcoat, ils avaient quelque chose vers quoi ils pouvaient cheminer conjointement.
Ils avaient un même champ, C-H-A-M-P-S, ils foulaient un même champ. Un même champ. Duboucher lui donnait le verbe et Talcoat lui donnait la lumière. Donc c'est comme si Duboucher, pas en amitié, illuminait le verbe par ces grandes lumières du devenir de Talcoat. Et ils s'entendaient très bien là-dessus. Mais vous savez, rester tout de même assez muet en se voyant. On n'avait pas des flopées de paroles, il y avait des silences extraordinaires et très longs dans lesquels, j'avoue, on aurait pu, quelque étranger qu'on ait été, couler. C'est-à-dire que tout vous met en danger chez ces êtres très précises, en fait. Et il faut faire attention à la lumière qui flambe, la lumière. Il faut faire attention à la palette du peintre. Elle peut vous tuer aussi, tellement elle est, c'est pas de la terre, c'est un pigment. Et quand le pigment reprend le mot de terre, les deux termes, T-A-I-R-E et T-E-2-R-E, on confine à quelque chose de très dangereux pour une âme. Très dangereux, c'est comme si on longeait le feu d'un peu trop près, en fait. Et on finit par être un peu brûlé. Mais voilà. Alors Talcoat, ils avaient leur amble, une amble commune peut-être.
Ils avaient conscience que le mot et le muet se tiennent étymologiquement.
Ils sont indissociables. Voilà, c'est indissociable. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est là où vous n'entrez pas.
Et ce qui est très frappant que vous m'aviez dit, c'est que à la veille de sa mort, André Duboucher corrigeait encore des textes, essayait de préciser encore des textes qui portaient sur Talcoat.
Ah oui, moi j'étais émue de voir que bouleversé à un point physique par la maladie, son esprit était intouché. J'ai pas compris à quelle distance l'esprit l'avait-il placé du corps, mais dans un état incroyable. Il me dit, n'oublie pas, amène-moi cette dernière page à laquelle je travaillais à propos de Talcoat. Et moi, je me dis, alors là, moi, j'étais affolée. Je lui apporte cette page et il me dit, tu sais, tu as vécu avec un pauvre fou. Tu vois bien que je suis incapable de retravailler à cette page. Je m'en étais pas aperçue. Je suis donc un pauvre fou. Et je lui dis, je crains qu'il faille retourner le mot. Et que tu es un grand sage avec le corps et l'esprit qui ne s'entravent pas. C'est ça qu'il avait de très beau, André Duboucher. Il restait libre quelque part, libre. Tout au cœur des choses, il gardait. J'ai pas le mot. N'empêche que il pensait à Talcoat la veille de sa mort.
Mais en lisant les manuscrits, moi, il y avait un passage qui m'avait vraiment frappé, c'est André Duboucher notant cette phrase de Talcoat peu avant sa mort. Les médecins n'arrivent pas à me guérir et je vais trouver, en broyant les pigments de ma peinture, la racine de la maladie, ce chemin de la maladie que les médecins ne parviennent pas à trouver, comme si en broyant cette matière...
Puisque, tel quoi qu'il m'aime, la maladie, il ne comprenait pas qu'elle soit en lui, comme du boucher. Elle n'y est pas. C'est pas moi. Donc, apportez-moi un peu ma palette, là. Amenez-moi, je vais broyer un peu quelques couleurs. On lui amène sa palette. Il broie. Mais il dit, vous allez voir, je vais trouver ma maladie dans ma peinture. Ça, c'est sublime. Et moi, je me disais, mon Dieu, si André m'avait demandé de lui amener un encrier et une plume, pour qu'il cherche à même l'encre et un mot en train d'essayer d'être tracé, de ne plus y parvenir, s'il m'avait dit « je vais bien voir si ma maladie ». Et là, j'en étais mais transie de cette histoire. Je trouve que c'est une plus belle histoire d'homme qui existe. Cette haute maladie qui est la poésie, qui est dite par Pasternak. N'est-ce pas? Voilà. C'est, alors, le mot « maladie », il faut le transformer, ce mot « maladie ». Ce n'est pas une maladie, c'est cet accès... J'aime pas le mot indicible, mais c'est cet accès à ce que ces hommes essayent de dire sans jamais y parvenir.
Il me semble qu'effectivement, André Dubouchet, en travaillant son texte sur Talcoat, était vraiment effectivement dans le contact avec la parole, comme oui. Talcoat allant travailler son pigment pour combattre le cheminement de la mort en lui.
Ah, mais absolument. Voilà, c'est Thomas. Vous savez, il n'y a rien comme un poète pour appréhender les choses. On vous l'a bien montré. Reverdy Braque, Stalchard, Dubouchet Talcoat, Thomas Auguet et la peinture tout entière.
Ce rapport à la mort, ça m'avait déjà frappé lorsqu'il écrit sur Giacometti. Voilà. Vraiment, il part de cette question de la mort qui est fondamentale, du crâne, de ce moment où Giacometti passe tout un hiver à peindre un crâne, et comment on peut aller du crâne à la profondeur vivante. C'est ça.
Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit, n'empêche, chez quelqu'un de très grand, de garder la mort comme parole au cœur de la vie. J'en ai jamais vu un grand homme qu'il m'est arrivé de croiser ne pas vivre dans cette proximité, c'est-à-dire cette conscience que chaque moment de vie qui leur permet d'exprimer quelque chose est frappé immédiatement, comme sous la foudre, par la mort. Ça, c'est une très grande dimension. Parce que, par exemple, moi qui m'essaye parfois à une petite plume que je mets sur mon papier, je m'aperçois bien que je suis tout l'envers. Et que moi, je ne fais que sortir, et que ça m'étoucherait de rentrer. Donc, je m'enfuis en courant, en fait. Et c'est de là que j'ai pu être d'autant plus... Si j'avais eu quelque chose en commun avec ces grands hommes, je me serais enfuie. Je les ai accompagnés par mon inverse. C'est-à-dire par le fait que moi, je sors, j'ouvre la fenêtre, je ne ferme pas la porte. L'abîme, je veux bien l'écrire, mais je le sors, et... Sortir, ça donne une œuvre immédiate et qui coule aussitôt. Alors que eux, leur œuvre, ils savent l'interroger par rapport à un abîme qu'ils assument. On a tous un abîme, mais on ne l'assume pas. On essaye de le construire. On lui raconte des histoires à notre abîme. Voilà les histoires qu'il ne faut pas incorporer et qu'il ne faut pas mettre au passé. Si vous restez dans le présent, vous êtes actif au cœur de cet abîme qui nous donne cette peinture, ces chants, ces éclats de lumière qui savent s'attendre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il est intéressant. Pour moi, ça a été intéressant de m'apercevoir de cela. Voilà, ça a été ma grande chance.
Il y a une phrase de Mozart qui est notée un moment par André Dubouchet, « La mort, cette précieuse amie de l'homme ». Je ne sais pas exactement ça, mais...
Si, c'est quasiment, c'est pas loin.
À peu près, mais effectivement, ils vont chercher à mettre à nu cet abîme parce qu'il faut d'abord creuser et mettre au jour tout, de débarrasser de tout ce qui l'entrave pour pouvoir ensuite faire.
Alors, il faut dire que quand Nicolas de Staël, en 1955, peint ses sublimes natures mortes, c'est en 1980 que Talcoat, 30 ans plus tard, répond par ses grands espaces de feu intérieur. Et je me dis que. la comparaison est fantastique d'un peintre à l'autre. Et que celui des natures mortes aurait aimé être du temps de ces années 80.
Et on aboutit à ces autoportraits de Talcoat, j'y reviens parce qu'ils me frappent, qui sont vraiment à la fin de sa vie, des visages disparaissants qui apparaissent autant qu'ils disparaissent. On le retrouve dans Cendre tirant sur le bleu qu'on a entendu hier soir, des visages qui sont autant des disparitions que des apparitions.
Parce que la conscience du temps, nous savons que notre visage disparaît. Nous le savons intimement, intimement. Plus personne s'écrit une lettre. C'est rigolo, la boîte aux lettres. Très peu. Eh bien, une écriture, je disais à Alain Père, c'est un visage. Et on va perdre ce visage d'écriture, là, dans un tournant de ce siècle informatique.
Mais je crois qu'ils avaient compris que la mort, elle n'est pas simplement un point à la fin de la vie, qu'elle est à affronter à chaque instant. Et à un moment, André Duboucher parle de survie. Comme si on pouvait...
Voilà.
C'est cette vie qui prend en compte la mort et qui parvient à la surmonter à chaque instant.
Voilà, je crois qu'il y a une conscience exceptionnelle chez ces êtres. Je pense que c'est un état de conscience très profond. Qu'ils aient changé, je dirais, avec beaucoup de silence. C'est ça quand même qui était magnifique. Ça ne faisait pas des palabres et des palabres. Tu serais d'accord, Pierrette ?
Tout à fait d'accord.
Et il me semble que cette survie, elle est à l'intérieur des tableaux de Talcoat. C'est extraordinaire de penser que certains tableaux continuent à évoluer parce que les couches qui ont été enfouies sont encore actives et que des tableaux de Talcoat, qui est mort en 1985, peuvent continuer à changer. Je ne connais pas de peintre...
Ça n'a jamais été fait en peinture. Jamais. Ça, c'est la grande. Ben, il est rentré dans l'espace, il est rentré dans le temps. Et vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire d'avoir su prendre la trajectoire. Parfois, ce n'est pas un trait, Talcoat, c'est une trajectoire, la trajectoire du temps où on peut mourir, mais la toile, elle va continuer. Vous vous rendez compte ? C'est assez fort, ça, parce que quand elle va être pendue dans un musée, toutes les nouvelles générations vont s'interroger à travers cette lumière. Qu'est-ce qu'elle est par rapport à eux ? Et ça va leur être d'un... Soit ils n'y verront rien, soit ça va leur être d'un enseignement le plus vivant qui soit, en fait. Voilà. Trois petites bribes de... Voilà.
On verra ça à Coutances tout à l'heure.